السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم, ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخنا نرميسيون الله عز وجل qui nous a donné la possibilité tout d'abord de célébrer le Eid al-Adha, qu'on appelle le Qurbani, la fête du sacrifice. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter les sacrifices que nous avons faits, que ce soit de nos mains, que ce soit le sacrifice qu'on a pu envoyer à l'étranger, quels que soient les endroits. Qu'Allah accepte le sacrifice et fasse entrer dans nos cœurs la réalité du Qurbani, l'objectif recherché, la philosophie qu'il y a à travers cette action, qui est de faire passer l'ordre d'Allah avant ce qu'on aime. Que le musulman soit prêt, comme Ibrahim alayhi salam, de faire passer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes choses avant ses propres désirs, ses propres passions, ce qui le tient à cœur. Parce que, comme on avait déjà expliqué, le simple fait de reproduire des faits, des gestes, cela, je crains que cela ne fera pas de nous de bons mu'mines, de bons musulmans. Nous allons certainement reproduire certains rituels, certaines actions, certaines choses qui sont certes ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala, mais tant que nous ne comprenons pas l'essence qu'il y a dans ces actions, comme la salat, dans lequel le musulman arrive à se contrôler. Dans la salat, je ne fais pas ce que je veux, je ne regarde pas ce que je veux, je ne parle pas, etc., etc. De la même manière, le musulman doit être capable de reproduire ce comportement. C'est-à-dire un contrôle total de soi dans la vie de tous les jours, comme dans la salat. Il ne fera rien qui va sortir des limites de la charia, des limites de ce qu'Allah Ta'ala a rendu licite à autoriser. Si le musulman, il comprend que la salat doit l'éduquer, doit lui donner cette faculté de se contrôler dans la vie, assurément progressera dans la foi. Mais si on se contente de répéter les salats de Fajr, Zohar, Asr, Isha, d'année en année, 2009 sera comme 2010, comme 2011, comme 2020, 30, 40, etc., etc., et je crains que nous n'avancions pas réellement. Alors qu'il y avait des sahaba, hein, ils se convertissent, quelques jours après, ils ont déjà atteint les plus hauts degrés de la foi. C'est le certes, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est indéniable, ce qui fait d'eux des sahaba. Mais c'était des gens qui avaient compris l'essence de la foi. Quel est le but recherché et l'accomplissement de toutes ces actions ont pour objectif de faire atteindre aux musulmans quoi? La taqwa, la crainte d'Allah. Parce qu'on peut être un grand adorateur d'Allah ta'ala si nous n'avons pas compris qu'il y a deux choses à combiner ensemble. En même temps, je fais les bonnes actions et en même temps, je m'éloigne des harams, de tout ce qui est interdit, de tout ce qui est illicite. Si je n'arrive pas à combiner les deux choses, qu'est-ce qui va se produire? Je vais faire un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière. Et à la fin, faites un bilan de 10 ans, 15 ans, 20 ans de notre vie, on n'a pas avancé. On a fait Fajr, mais le matin, on a travaillé d'une manière illicite. On a fait une chose qui est bonne, mais en contrepartie, on a fait également un péché. Donc, nous n'avançons pas. Et la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est que je me mets, ça c'est une explication de la taqwa donnée par les ulama qu'on a déjà expliqué maintes et maintes fois, mais je le dis avec cet espoir que moi-même je le comprends premier, nous tous. La crainte d'Allah, c'est quoi? Un muttaqi, un homme, un musulman qui a la taqwa, qui a la crainte de Dieu, la crainte d'Allah dans son cœur, c'est quoi? Crainte, il y a une différence, même dans la langue française, entre la crainte et la peur. Une fois j'avais utilisé ce terme, avoir peur d'Allah, en ville, et l'ancien Montawali m'a dit, moi, il ne faut pas dire avoir peur d'Allah. Je me suis dit que c'est vrai, c'est une erreur, une faute de langage. Peur, on a peur de quelque chose qui est nuisible. Allah n'est pas nuisible, na'ouzou billah. Allah ne fait pas de mal. On a la crainte, quand on parle de crainte, c'est un mélange d'amour, de respect, de soumission. C'est-à-dire que jamais je vais me mettre dans une situation où Allah serait mécontent de moi. Par amour pour Allah, par gratitude, par reconnaissance, ce qu'Allah m'a donné, je parle pour moi en premier, qu'Allah me pardonne, ce qu'Allah m'a donné, comment puis-je être aussi ingrat et désobéir volontairement à Allah? Une erreur, c'est pardonner, Inch'Allah. Mais comment puis-je désobéir volontairement, ciment à Allah Ta'ala, alors qu'Allah Ta'ala m'a donné la santé, m'a donné la foi, m'a donné telle chose, et que des gens n'ont pas eu ces bienfaits? Ce mélange, cette compréhension de notre situation, le fait de ressentir l'existence d'Allah et d'être conscient qu'Allah me voit dans toutes les situations de ma vie, cela me permettra de construire une relation entre moi, musulman, et Allah Ta'ala qui me donnera la possibilité, dans toutes les situations de ma vie, de réfléchir quand je vais faire quelque chose, quand je vais dire quelque chose, quand je vais faire entrer quelque chose dans ma poche, quand je vais manger, quand je vais regarder, quand je vais écouter quelque chose, est-ce que je ne sors pas des limites du shara, des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'objectif principal. Et c'est ça le but que chaque musulman doit essayer d'atteindre, la crainte d'Allah. Et c'est ça l'objectif recherché à travers tous les bayans, les programmes, tout ce qu'on peut faire comme effort dans la religion. Le but, c'est que chaque musulman, il développe dans son cœur la crainte d'Allah pour qu'il arrive à une situation où il fait ce qu'Allah lui demande et il s'éloigne des péchés. Ça, on a déjà répété, mais c'est un mudhakara, c'est un rappel. Il est facile d'accomplir les bonnes actions. Tout le monde peut le faire. Salat al-Isha, il y avait, je ne sais pas, 8 saf. 8 saf, ça peut faire 150 personnes. Je dis comme ça. 150 personnes peuvent se déplacer de différents quartiers pour venir à la Salat al-Isha. Pareil pour Fajr ou Al-Salat dans toutes les masjids du monde. Mais ça, c'est l'action qui a été faite. Ça, c'est facile. C'est accessible. Maintenant, quand on regarde qui est capable de s'éloigner totalement du haram, c'est plus difficile. Il est plus facile d'obéir à Allah que de faire en sorte de ne pas lui désobéir. Parce que l'être humain est faible. Nous avons envie d'accomplir les péchés. Et ça nous permet de remonter exactement sur le thème du jour. Comment seront jugés les musulmans pécheurs le jour des comptes? On ne parle pas des koufars. Ça, on l'a déjà expliqué il y a un an et demi. Comment les koufars seront-ils jugés ou ne seront pas jugés? Ils iront directement dans le jahannam. Nous en avons déjà expliqué. Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui ont la ilaha illallah de leur cœur, mais qui, en dépit de cette présence de la tawhid, de l'islam de leur cœur, ces musulmans ont accompli des péchés. Nous savons qu'il y a trois catégories de musulmans. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit « Thumma awratna al-kitab al-ladhina astafayna min ibadina faminhum zalimu li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi'idhnillah ». Il y a trois catégories de musulmans. Zalimun li nafsi, ce musulman qui fait des péchés. Il fait régulièrement des péchés tout en restant dans la foi. La deuxième catégorie de personnes, ce qui est peut-être notre cas, nous tous, c'est muqtasid, celui qui est intermédiaire. Il fait des bonnes actions, il va faire son namaz lui, il ne ratera jamais un namaz. Mais en même temps, il reste, malheureusement, il reste habitué, abonné à certains péchés. Donc c'est entre les deux. Il avance, mais en même temps il recule. Il fait de bonnes actions, mais en même temps il fait des péchés. Et ensuite, sabiqum bil khayrat bi'idhnillah, ceux qui sont loin devant, ceux qui font toutes les obligations, les sunnat, les mustahabbat, les nafil, ce qui s'éloigne de tout ce qui est haram, makruh et douteux. C'est le plus haut degré de la foi. De la même manière, le jour du qiyamah, il y aura parmi les ahlul iman, il y aura les gens, parmi les gens qui ont la foi, il y a ashabu shimal, bien sûr, les gens de gauche, il y a ashabu yamin, les musulmans. Et au-dessus d'ashabu yamin, il y a les gens proches, on pourrait appeler ça les muqarrabin, les gens qui sont proches d'Allah. Ce sont ceux qui ont atteint les plus hauts degrés de la foi, du iman. Tout comme dans ce bas monde, il y a différentes catégories de croyants. De la même manière, le jour du Qiyamah, il y aura différentes catégories de croyants. Maintenant, cette catégorie de musulmans qui avaient accompli des péchés, quelle sera leur situation au moment des comptes? On ne parle plus de la résurrection, le soleil, avec la transpiration, on avait déjà expliqué avant, au moment des comptes. Alors, on pourrait dire que c'est au cas par cas. Parce que on peut avoir une personne qui fait un péché, un guna kabira, un grand péché, une fois de temps. Et une autre personne qui le fait régulièrement. Donc la situation sera différente. On peut avoir une personne qui fait un seul grand péché, quelqu'un qui est malade. Par exemple, une personne qui sera peut-être régulière de ses salats ou autre chose, mais, je le dis clairement, de ses rapports avec les femmes, cette personne a une faiblesse. Cette personne ne peut pas résister au charme des femmes. Donc, c'est quelqu'un qui est abonné au zina. Mais il ne consomme pas de l'intérêt. Même quand il va en grande surface, il regarde bien les compositions et tout, il ne mange pas de haram. Son argent est pur, et pas, il n'y a aucun problème. Il donne une éducation parfaite, exemplaire à ses enfants. Sa femme se couvre bien sur la chariat, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui donne sadaqa, qui, alhamdulillah. Mais cette personne a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est les femmes. Ce n'est pas pour rien si le prophète a dit que la plus grande fitna qu'il a laissée, c'est les femmes. Il n'y a pas plus grande fitna que les femmes. Et puis,
Il peut y avoir une autre catégorie de musulmans, celui-là, pour le zina, il n'y a pas de problème, il sait rester éloigné. Mais son problème, c'est l'argent. Il aime l'argent facile. L'intérêt, les prêts avec des ribas illégaux, etc., etc. Cette personne ne peut résister à l'argent facile, mais ne fera pas le zina. Celui qui consomme de l'intérêt et celui qui accomplit le zina, leur situation ne sera pas la même le jour de la résurrection. Et puis malheureusement, il y en a qui combinent, ils ont pris un pack, et ils combinent un peu tous ces péchés, ça c'est un gros problème. Ça c'est un problème qui est énorme parce qu'ils ont à subir différents châtiments, qu'Allah nous protège. Comment les châtiments seront combinés, sachant que les châtiments sont différents? Le châtiment de, par exemple, d'une personne qui ne donne pas la zakat n'est pas le châtiment d'une personne qui fait le zina. Ce sont là deux châtiments différents. Mais celui-là, il aura subi les deux. Comment? Est-ce qu'une période, ça ne fait ça, Allah, ça c'est Allah seul qui sait. Mais ce sont là des situations différentes. Maintenant, on a une personne qui, dans les piliers de la religion, pardon, dans les piliers de l'islam, cette personne, il en fait quatre, il en délaisse un. Et ça, c'est, Allah musta'an, peut-être 50% de la population musulmane. Au mois de Ramadan, cette personne répondra présent. Jamais la personne n'abandonnera un saum, un jeûne, un carême. Le hajj, il fait son hajj faraz. D'accord? Son qurbani, il le fait, etc., etc. Mais son problème, c'est la salat. Son problème, c'est l'accomplissement de la prière. Pour lui, la salat, c'est Ramadan, les grandes nuits, etc., etc. En dehors de ça, cette personne n'accomplit pas la salat. Donc, sa situation sera différente de celui qui fait sa salat, mais ne paye jamais la zakat. Mais ça, c'est plus rare. Parce que le pilier que les gens, malheureusement, délaissent le plus souvent, c'est la salat. Le jeûne, la zakat, les gens, en général, ils le paient. Mais donc, comprenons bien que, en fonction de la bonne action, tout à l'heure, on a vu les péchés. Là, on parle de délaisser les bonnes actions, les obligations, pardon. En fonction de l'action qui a été délaissée, la situation de ce musulman, de ce mu'min, sera différente le jour du qiyamah. Donc, c'est pour ça qu'on avait expliqué la dernière fois, en aucun cas, un musulman doit se réconforter en se disant, par rapport à un péché, en se disant, oui, mais moi, je ne fais pas zina de toute façon. Il est vrai que par rapport à mon travail, il n'est pas propre avec la banque, je fais des emprunts et tout, mais, mina infam, bien mali, mitron pali. Pas comme un deux, il cause beaucoup, après, il en a maîtresse à droite, à gauche, m'y mange un peu, je consomme de l'intérêt, c'est clair, mais je ne fais pas zina. Il n'y a pas de quoi être fier. Parce que, certes, Allah vous a protégé d'un péché, mais vous êtes entré la tête première dans un autre péché qui est peut-être plus grave encore, ou voire aussi grave que le zina. Donc, il n'y a pas de péchés qui sont sans conséquences, mis à part les petits péchés. Et là aussi, j'avais expliqué, si on cumule des petits péchés, ça arrive au degré de grands péchés, on peut rentrer dans la catégorie des personnes que j'appelle fussar, un fasir. Je dis ça, hein, sans vouloir avec ces personnes. Quelqu'un qui peut aller au travail régulièrement, son pantalon est dessous de la cheville, tout le temps. Ben, les ulama disent qu'à un moment donné, cette personne devient fasiq, un pécheur en Dieu si. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de désobéir à Allah. Et même si on l'explique, il sait qu'il désobéit à Allah chaque fois qu'il met son jean, son pantalon ou autre chose. Mais il le fait constamment. C'est grave. C'est extrêmement grave d'être dans cette catégorie de personnes qui désobéissent à Allah de 8h à 20h. C'est extrêmement grave. Parce que c'est un compteur qui tourne en permanence. Le compteur tourne. Il a dit, pantalon sous la cheville du matin jusqu'au soir. Du lundi jusqu'au samedi, mis à part le dimanche, on a musta'an. Donc, c'est grave. Les petits péchés peuvent nous faire entrer dans la catégorie de fasiq. Allah nous donne la possibilité de nous en sortir et qu'on trouve la solution et la force pour nous en sortir. Parce que personne n'est parfait. Nous avons tous nos mauvaises habitudes. Donc, ne pas s'enorgueillir, ne pas se sentir ni réconforté par rapport au fait que je ne fais pas tel péché. Il ne faut pas regarder qu'est-ce que je ne fais pas. Regardons ce qu'on fait. D'accord? On ne regarde pas, moi, au moins, je ne fais pas tel péché. Oui, mais mon frère, ça, tu n'avais même pas le droit de le faire. C'est comme si quelqu'un dit, ah, bon, il vole, mais il ne tue pas personne. Ou ça, un policier dit, oui, mais un voleur, et alors? Mais il ne m'a pas tué personne. Non, par rapport à la loi, vous êtes déjà coupable. Pareil, on ne doit pas regarder ce qu'on ne fait pas comme péché, mais regarder ce qui reste dans nos archives, ce que nous faisons régulièrement. Donc, comme on l'a dit, chaque personne aura une situation différente. On commence par le premier, on avait commencé à développer ça, je ne me souviens pas exactement si on l'avait vu la semaine dernière. Première chose, l'abandon de la salat. Première chose, l'abandon de la salat. Ce qui caractérise la salat, c'est que c'est le seul ibadat, c'est le seul acte d'adoration pour lequel il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de règle qui dispense une personne de la salat. Mis à part ça, toutes les obligations de l'islam peuvent, ils sont saqit, ils ne seront pas faraz sur quelqu'un qui ne remplit pas les conditions. Par exemple, un enfant. Nous savons que le Prophète a ordonné aux parents Mourou awladakum lis-salah wa hum abna sab'a. Ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière lorsqu'ils ont 7 ans. Et obligez-les à le faire. Non, et frappez-les, c'est-à-dire, on peut les sermonner jusqu'à utiliser la baguette. Sans, on ne parle pas de battre les enfants, d'accord? Mais on peut les brusquer un peu plus si à 10 ans, ils n'accomplissent pas leur salat. Et mes chers frères, avant de développer le caractère obligatoire de la salat, de parler de la salat, etc., il faut comprendre que cet acte d'adoration, on doit l'inculquer à l'enfant lorsqu'il est encore petit. Quand on voit les enfants qui viennent à la salat, parfois, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui disent, ben les enfants vont laisser à la maison, ça y fait des ordres. Moi, je suis désolé. À l'époque, je pense qu'il y avait des enfants qui venaient à la salat aussi. Maintenant, on explique les enfants, ce n'est pas un terrain de sport, ce n'est pas un endroit où on vient jouer le cachette ou autre chose. On apprend le respect. Et moi, je suis d'avis qu'un père, un papa doit amener ses enfants à la masjid. Peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si l'enfant est propre, il ne met pas de couche ou autre chose, il peut l'emmener. Et dans ce cas, qu'est-ce que le papa il peut faire? Il fait la main dans un coin. Il fait avec la jamaat, il fait dans un coin au niveau du mur et il bloque l'enfant contre le mur. C'est-à-dire qu'il ne va pas échapper. Donc on est sûr que l'enfant ne perturbera pas personne. Ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi. L'enfant, il voit, il a l'habitude de venir à tous les maghrib, tous les ishas, ben il comprendra que ça fait partie de la vie du musulman, du garçon, de l'homme, que de venir à la salat. Et la maman, pareil. Lorsqu'elle va faire sa salat, elle éteint la télé. Même si les enfants ont 5 ans, 6 ans, à l'heure de Adhan, on éteint la télé. J'ai dit, oui, ça, vous dites, ben, la télé, on a le droit à la télé. Bon, le débat n'est pas sur est-ce qu'on a le droit à la télé ou non. De nos jours, je pense que 100% des gens, ils ont télé. Illa, marahimallah. D'accord? Donc, mais qu'on comprenne le caractère sacré de la salat. Les enfants, ils regardent des salim ou autre chose. À l'heure du Adhan, il faut éteindre la télé. Et lorsque la maman va faire la salat, elle doit amener sa fille, même si elle a 5 ans, même si elle a 6 ans, elle emmène sa fille pour faire la salat avec elle. Et le gros piège de Shaitan, c'est quoi? C'est lorsqu'il va insuffler dans le cœur des parents un semblant de rahma. Le papa ou la maman, ils ont l'impression d'être bienveillants vers leurs enfants. Ils disent que maman, il est trop petit. Et ça, c'est grave, ça. Quand on commence à se dire que maman, il est trop petit, ça, c'est terrible, ça. Quand il y a le papa, la maman dit que le papa, ben, réveille Ali, amène les fadjas, dit maman, il est encore petit, laisse Ali dormir, ou bien aujourd'hui, dimanche, toute la semaine, il a travaillé. C'est comme ça qu'on est en train de foirer l'éducation de l'enfant. Et si on n'a pas inculqué la salat à notre fils, à l'âge de 6 ans, 7 ans, il va vous obéir. À 15 ans, il ne vous est plus. Peut-être c'est nous qui obéissons à l'enfant. À 15 ans, 16 ans, l'adolescent n'est pas fait pour obéir. Ça a déjà développé ça, ce qu'Ali dit que 7 ans, il y a l'amour. On donne 7 ans l'amour à l'enfant. De 7 à 13 ans, on éduque l'enfant. Parce que jusqu'à partir de 7 ans, l'enfant comprend les ordres et les interdits. Il va vous obéir parce qu'il a une reconnaissance envers vous. Il vous aime. Il vous admire. Un enfant, normalement, doit considérer son papa comme l'homme le plus fort au monde, comme un héros. C'est comme ça, normalement. Maintenant, si nous n'avons pas su donner l'amour à nos enfants, nous n'avons pas montré notre présence, nous ne leur avons pas donné du temps, notre enfant ne sera pas admiratif de son papa ou de sa maman. Cela, ils resteront des parents absents. La maman qui était au bureau, qui rentrait le soir, qui mettait une pizza au micro-ondes, qui servait le repas comme ça, il n'y a pas le noyau familial, il n'y a pas cette chaleur. Donc l'enfant, automatiquement, son cœur ne sera pas rattaché aux parents. Et donc, dans la deuxième phase, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que je veux obéir à mon père ou à ma mère, sachant que je n'éprouve rien de spécial pour eux. Tandis que si vous donnez l'amour à ces enfants jusqu'à 7 ans, ben, ces enfants-là, ils auront une reconnaissance. Le papa et la maman auront une place spéciale dans le cœur de ces enfants. Donc, si nous avons ces réactions de dire que l'enfant est trop jeune, trop petit, nous sommes en train de détruire le iman de cet enfant sans qu'on s'en rende compte. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est que jusqu'à l'âge de 10 ans, 12 ans, on va dire, maman, il est trop petit. Et à partir de 14, 15 ans, il va dire, il est grand, il connaît quoi il faut faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de phase intermédiaire. Il est soit trop petit, soit il est déjà grand. Il sait ce qu'il faut faire, il est grand et c'est pas à moi de le dire. C'est-à-dire que nous sommes en train de fuir nos responsabilités. Tandis qu'un enfant n'a pas jeûné quand il est petit, un enfant n'a pas donné la zakat, un enfant n'a pas le hajj à accomplir, également une personne âgée. Si la personne est âgée, elle n'a pas fait le hajj, il n'y a pas besoin de faire le hajj, on fera hajj batal poli. La personne qui est âgée ne peut plus jeûner, il donnera il nourrira un pauvre, etc. C'est-à-dire pour tous les piliers de l'islam, la zakat, quelqu'un qui n'a pas les moyens ne paye pas. Un enfant ne paye pas la zakat. Mais pour la salat, il n'y a aucune excuse, ni l'âge, ni le jeune âge, ni la vieillesse, ni la maladie, ni le voyage ou autre chose. Le musafir ne jeûne pas. Mais le musafir, il fait sa salat qasr, mais il le fait. Ça, c'est quelque chose de spécifique. Ce n'est pas pour rien si dans les hadiths, il écrit que c'est la première obligation qui a été révélée au prophète alayhi salat wa salam avant la création des cieux et de la terre. Cette obligation, cette salat, ce amal, cette action a été rendue obligatoire, a été décrétée, la décision a été prise par Allah subhanahu wa ta'ala. Même une personne qui est malade, on connaît les masal, faire la salat assise, même jusqu'à allonger, etc. Même une personne qui est en prison, qu'Allah nous protège, dans un système, je ne sais pas, communiste ou autre chose, hein, et qui n'a pas le droit de prier, la personne, c'est un ulama de la fatwa, si on ne vous laisse pas même vous mettre debout pour la prière, qu'elle fasse la salat, on pourrait dire dans son cœur, que dans sa tête, elle fait la salat. Mais ne jamais rater la salat, ce n'est pas pour rien. Ce hadith très dur. Si le Prophète me dit, Inna l'ahad alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Ce qui nous distingue de ceux qui n'ont pas la foi, c'est cette prière. Celui qui délaisse la prière, on ne parle pas de celui qui a raté un namaz, celui qui délaisse, il considère que la salat, ça n'a aucune importance. Le Prophète me dit bien, c'est pas moi qui le dis, faqad kafar. Cette personne a fait le kouf, c'est-à-dire cette personne quitte l'islam par l'abandon total, je dis bien, l'abandon amdan, volontaire et total de la salat. Et pire encore, si une personne considère que c'est une action inutile, sans intérêt, là on passe à un degré de kouf dans la foi. C'est-à-dire, on est en train de renier un ordre d'Allah. Et ça c'est encore plus grave. Il suffit de renier une chose qui fait partie intégrale de l'islam pour perdre la foi. Ça c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et ce n'est pas pour rien si le Prophète, j'explique que, hadith qu'on avait déjà dit la dernière fois, on va dire rapidement, la première chose qui sera jugée le jour des comptes, ce sera la salat. C'est-à-dire, parmi les ibadat, la première chose qu'Allah Ta'ala demandera aux anges d'examiner dans nos livrets, ce sera les prières. Si nos prières étaient complètes, alors tout le reste sera facile. Si dès le départ il y a un manquement, il y a une faiblesse dans la salat, alors tout le reste sera difficulté sur difficulté. Alors là, il y a différents cas de figure. Il y a le musulman qui a toutes ses salats. Lui, alhamdulillah, ce musulman sera tranquille, inshallah, qu'Allah fasse que nous fassions parmi de ces personnes-là. La salat est complète, il n'y a rien à dire. Deuxième catégorie de personnes, la personne qui a délaissé la salat complètement. On a dit que la personne a fait le kouf. D'accord? Cette personne ira dans le jahannam, mais sans pour autant y rester pour l'éternité. Selon certains ulama, la personne, elle a fait un kouf, elle ira dans le jahannam, mais la personne n'a pas quitté le iman complètement. Troisième catégorie de personnes, c'est le cas le plus fréquent, celui qui faisait la salat parfois et qui le délaissait parfois avec ou sans raison. Pour cette personne, Allah Ta'ala demandera aux anges d'examiner est-ce qu'il y a des nawafil qui pourront combler les salats qui ont été délaissés. Donc ce sont là les différentes catégories de personnes. Et notre prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné également que ce hadith khamsu salawat, 5 prières, Allah Ta'ala a rendu obligatoire sur cette ummah, celui qui les accomplit hein, comme il se doit, Allah Ta'ala a pris une promesse, a fait une promesse à ces gens de les faire accéder au paradis. Tandis que celui qui ne les a pas accomplis, Allah Ta'ala n'a fait aucune promesse. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala il peut pardonner à ces personnes, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala peut sévir, peut punir ces personnes. Donc ça, ce sera la situation de la salat, l'abandon de la salat, premier amal, première action à être jugé le jour de Qiyamah. Deuxième, autre pilier plutôt de l'islam, la zakat, l'abandon de la zakat. Dans un hadith, d'abord dans les versets du Coran, lorsqu'on parle de la salat, la plupart du temps la zakat vient avec la waqim salata wa atu zakat. La plupart du temps la zakat est citée avec la zakat est citée avec l'accomplissement de la salat. Et ce n'est pas pour rien, ça c'est un fait historique, ce n'est pas pour rien que Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, lorsqu'il est devenu calife, lorsqu'il y avait des tribus arabes qui ont décidé de ne plus donner la zakat, Abu Bakr les a combattus comme il aurait combattu des kuffars. Et là, certains sahaba, ils ont fait la remarque à Abu Bakr, pourquoi combattre ces gens comme des kafirs alors qu'ils sont musulmans? Et là, Abu Bakr les a fait comprendre que l'abandon de la zakat, ça fait partie du kufr. C'est-à-dire, c'est comme si la personne est en train de quitter la religion. Le fait de ne plus vouloir accomplir un pilier d'islam, cela exclut la personne du cercle de l'islam. Alors, et en commentaire, il expliquait que l'abandon de la zakat, à propos de l'abandon de la zakat, les punitions commencent depuis l'ahavat ou l'ihtidar. Depuis l'agonie, il y a des punitions. Il y a des punitions dans la tombe. Il y a les punitions fi mawaqif il akhira, dans les différentes étapes de l'au-delà, la résurrection, etc., etc. Et enfin, les comptes que la personne aura à rendre pour la zakat qu'elle n'a pas donnée, ces comptes-là seront terribles. Ala wa inna Allaha yuhasibuhum hisaban shadida wa yu'adhibuhum 'adaban alima, nasallu al-'afiya. Allah Ta'ala les jugera de manière sévère et Allah Ta'ala les infligera un châtiment douloureux. Dans le Coran, il dit walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. Que les personnes, donc la traduction approximative, qui thésaurisent, hein, qui entassent l'or et l'argent, hein, donc c'est, qui ne donnent pas la zakat ou la sadaqa ou autre chose, Allah Ta'ala dit au Prophète, annonce à ces gens, hein, la nouvelle d'un châtiment douloureux. Yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Dans notre hadith, il est expliqué que les personnes qui thésaurisaient et qui ne donnaient pas le droit de l'argent, c'est-à-dire la zakat, ces biens-là seront chauffés avec le feu du jahannam et seront posés sur le flanc, sur le front, sur le dos de cette personne pour brûler ces gens. Kullama baridat u'idat lahu. Et lorsque ces trésors seront refroidis, Allah Ta'ala ordonnera aux anges de, en ce sens, de réchauffer encore ces biens, ces métaux avec le feu du jahannam et de manière interminable, cette personne aura à subir les châtiments par rapport au fait que la personne n'avait pas donné le droit des biens, la zakat. Et nous, qu'est-ce qu'on comprend très souvent lorsque je vois que l'année est passée, je dois donner 300 voire 400 euros de zakat? Parfois avec la crise, malheureusement, on peut se dire que oui, ben, je vais pas donner, je vais garder cet argent. Alors comprenons bien que économiser 300 euros sur une année, ça fait quoi? Ça vous fait 20 euros peut-être par mois, 25 euros. On va économiser 25 euros, c'est-à-dire avec ces 25 euros, on est en train de s'acheter une place de le Jahannam. Qu'Allah nous protège. On est en train de s'acheter des punitions avec les biens qui brûleront le flanc, le front et le dos de la personne. Ou alors dans d'autres hadiths, Ibn Mas'ud dit que, le Prophète dit, c'est un hadith très connu, que ces biens, le jour de Qiyamah, un ma min ahadin la yu'addi zakat amalihi, celui qui ne donne pas les biens, la zakat sur ses biens, alors ces biens seront transformer le jour de Qiyamah en shuja'an aqra', un serpent, un énorme serpent qui étranglera cette personne. Et donc ça, c'est un hadith très très connu. Donc soit on achète ce châtiment avec ce serpent, ou alors ces biens qui brûleront cette personne par le feu du Jahannam pour une somme modique de 20 voire 25 euros par mois. Alors que malheureusement, par opposition, nous voyons que nous sommes prêts à payer un telle chaîne satellite ou autre chose pour 60-70 euros. Et pour 20-25 euros par mois, l'équivalent de ça, nous sommes prêts à acheter un châtiment dans l'au-delà. Et cela prouve quoi? Cela prouve que jusqu'à maintenant, beaucoup parmi nous ne croyons pas réellement au Jannat ou au Jahannam. Si on parle de arkan al-iman, les branches de la foi, parmi les branches de la foi, il y a le fait de croire en l'au-delà. Et tout ce qu'il y a par rapport à l'au-delà, c'est-à-dire la mort, les étapes de la mort, la résurrection, ces étapes, les comptes, et le paradis et l'enfer. Ça, c'est la base. Ça. Si le musulman n'a pas intégré, il n'a pas réalisé c'est quoi le paradis, et il n'a pas réalisé c'est quoi l'enfer, c'est à partir de là qu'il n'hésitera pas à accomplir des péchés. Et il n'hésitera pas à délaisser les obligations. Parce qu'il n'a pas réalisé c'est quoi le Jahannam. On peut lui parler des azabs de Jahannam, il n'a pas intégré ça, il n'y croit pas réellement. Ce qui fait que, quand on lui parle des punitions pour ceux qui ne donnent pas la zakat, cette personne, hein, il ne tiendra pas compte. C'est pour ça qu'à la base, avant d'aller loin dans les actions, il y a le iman à former les croyances sur tous ces points-là. Ça, c'est pour l'abandon de la zakat. Et dans certaines versions, il dit également que l'homme qui est radin, hein, il est loin d'Allah et il est loin des gens également. Une personne qui est avare, qui ne donne pas que soit la zakat, que ce soit la sadaqa, c'est une personne qui n'a pas confiance en Allah. Celui qui, hein, il a 10 euros dans sa poche, il n'est pas prêt à donner 5 euros pour aider une personne qui n'a rien à manger. Il se dit que si je donne 5 euros, ça me fait 5 baguettes en moins. Non, ça me fait 7 baguettes en moins. C'est-à-dire une semaine de pain, une semaine de baguettes qui s'en va. C'est-à-dire que mathématiquement, c'est vrai. Ou alors, c'est comme si qu'une semaine, je n'ai pas eu mon journal, par exemple. D'accord? Mathématiquement, c'est vrai. Mais ça prouve que la personne, il a yakin sur ses biens. J'ai yakin, je suis à la couleur du billet. Le bleu, le vert, le jaune et le mauve. J'ai yakin, je suis plus grand yakin, c'est le mauve encore. Mais je n'ai pas confiance. Ben, moi, je ne sais pas combien de fois je n'ai pas bien billet, mauve. Allah Moussa. D'accord. Mais la confiance n'est pas en Allah, que c'est Allah qui nourrit, qu'avec peu, Allah il peut donner la baraka. Bismillah, voilà, barakati, là on apprend ça depuis qu'on est petit, nous lisons ça depuis qu'on est petit, on n'a pas compris. Que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup à manger que je vais manger beaucoup. Avec peu de nourriture, Allah il peut remplir mon ventre, que mon cœur soit satisfait et que je peux faire beaucoup de choses. Cette nourriture m'apporte baraka dans ma vie. Donc celui qui est avare, c'est que c'est pas anodin ce genre de péché-là, ce genre de défaut. Voilà, la société, c'est un défaut, mais c'est un péché. Cela prouve qu'il y a une tumeur dans le iman. Il y a un manquement. Si je suis avare, si dans le malheur, je me plains, je n'accepte pas les difficultés, je n'arrive pas à gérer les situations de crise, c'est qu'il y a une tumeur dans le iman. Et ça, c'est pire qu'une tumeur au cerveau ou une tumeur où Allah Amstrad, qu'Allah nous protège, je ne sais où. Parce que la foi n'est pas. C'est creux. Il y a l'apparence, mais dedans, c'est comme si c'était Kaya, fini bouffe tout. C'est creux. Si on tape dessus, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Dans les épreuves, j'ai entendu quelqu'un dernièrement dire quelque chose, une parole. Allahu Akbar, quelqu'un de religieux. Religieux, Allahu Musta'an, religieux comme. Il y en a, alhamdulillah, pas mal. Personne on s'en est parlé d'une difficulté ou d'un truc. Il dit, Daska, il a dit, Wallahi, texto. Elle dit, donc, c'est une injustice de la part d'Allah. Mais ça, c'est Kalimatul Kufr, ça. Quelqu'un de religieux, Hafidul Qur'an, maîtrise du Qur'an, parlez d'une, je ne sais même plus de quoi en parler, et dit dans ce cas, si ça arrive telle chose, dans ce cas, un cas de figure que ça peut nous paraître injuste, mais la personne n'est pas allée très loin de son raisonnement, qu'il y a une sagesse de la dire que dans ce cas, si cela arrive, c'est une injustice d'Allah. Tout le monde l'a rattrapé, il dit, faut pas dire ça. Allah Musta'an. C'est-à-dire qu'on a parfois tout ce qu'il faut extérieurement, les actions y sont, mais la relation avec Allah n'est pas fondée, n'est pas comme il le faut. D'accord ? De même, une personne, si elle est prête à faire, je ne sais pas, par rapport à l'argent, une personne est prête à signer un contrat haram avec intérêt, c'est qu'il n'y a pas la crainte d'Allah réelle de son cœur. D'accord ? Ça, ce sont des choses de base à travailler qui nous permettra de parfaire maintenant toutes les autres actions. On en est à 32 minutes, je pense qu'on va s'arrêter à là. La prochaine fois, on va parler de l'abandon du saum, du jeûne, l'abandon du hajj, et puis bon, les sujets qui fâchent, l'intérêt, l'alcool, tous ceux qu'on bon, l'alcool, encore, alhamdulillah, qu'Allah nous en protège. Mais évidemment, il y a certains péchés qu'on n'aime pas trop en parler, mais il faut connaître que tel péché, quelles seront leurs conséquences. Le fait de savoir quels sont, hein, là je tombe là, sahib al-wajhain, Allah nous pardonne, nous on est, sahib al-wajhain, c'est quoi? Juste une petite parenthèse, c'est ceux qui ont deux visages. Devant, hein, ça va, elle dit ça, bien et tout, parler, elle dit, bon, là, vraiment, elle n'a pas Dieu comme lui, vraiment, elle marche pas fils, mais comme ça, et devant, elle est bien. C'est-à-dire, comme on dit en créole, il tranche deux côtés. Sahib al-Wajhain. En arabe, Wajhain, c'est deux visages. Mais je dis toujours avec un collègue, nous, on n'est pas Sahib al-Wajhain, nous, on est Sahib al-Wujur. Nous n'avons pas deux visages, nous avons. Il coupe, côté, coupe deux côtés. Non, mais le côté, coupe tout de côté. La manche, tout, il coupe. Ou trappe la manche, mais il coupe tout de doigt. Wallah Musta'an. Hada. Etc, etc. Également, la personne qui fait entendre quand elle a donné quelque chose, il dit, il rappelle les biens. Ouais, il m'a donné ça, ouais. Ah, ou, rappelle pas, m'a aidé dans une difficulté. Ça, c'est quelque chose d'horrible. Ça, c'est dégueulasse, ça. Quelqu'un, il vous vient en aide, et c'est comme si vous avez une dette morale jusqu'à la mort. C'est pire que quand, c'est pas une garantie 5 ans, 10 ans, décennale ou autre chose. C'est comme si il vous a aidé, jusqu'à la mort, il faudra être reconnaissant. C'est pas ça, aider son prochain. Quand on dit, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Celui qui vient en aide à son frère musulman. Quelqu'un, son commerce est en train de chuter. Il a besoin de 30 000 euros, 40 000 euros pour pouvoir payer ses dettes, honorer ses commandes, etc. etc. sans sortir à Yahani. On l'a aidé. Mais ce n'est pas que jusqu'à Limoges, jusqu'à ses enfants, ses petits-enfants, des malades ou dada qui est une difficulté, etc. Là, wallah, on aide et on n'attend pas le retour. Remboursé, d'accord, mais on n'attend pas la reconnaissance. Je sais que j'ai aidé cette personne, je l'ai fait pour Allah, etc. etc. Tout ce qui concerne le fait d'aider les personnes. Autre péché, celui qui vole la terre. Ça, c'est un problème grave dans l'héritage. Dans l'héritage, quelqu'un qui... Ça, je connais des cas, des gens qui modifient le testament. Ça, c'est grave, ça. Le papa, il est décédé, il a fait le testament. Là, le grand frère ou autre chose... J'ai entendu un cas, wallah, alam, hein, personne, il vient, il modifie. Tel cas, ah, la mère poulie, ben, nous, machin, etc., etc. Ça, c'est grave. Ou alors, prendre un parcelle de terrain, même un centimètre carré de terrain qui ne nous appartient pas, le prendre, ça c'est un péché énorme. il y aura des conséquences terribles le jour du Qiyamah. Également, à Cheikh Zani, bon, bien sûr, un vieux monsieur qui continue à faire zina dans sa vieillesse, il tient encore le jus, il continue à faire des péchés, il connaît que la mort est proche, mais je ne sais pas quoi il boit, mais il continue à faire des péchés. Ad-Duyuth. Ad-Duyuth, c'est quoi? C'est un père, un homme, qui, pour lui, ça ne lui dérange pas que 10 personnes viennent faire la bise sur madame, ou qu'ils causent avec sur madame. C'est-à-dire une vielle occidentale, ou que des garçons, ils viennent, ils sortent avec sa fille, etc., etc. Ça, je me rappelle toujours cette parole de Cheikh Hassan, lors du IADJ. Il dit que de nos jours, il y a des parents qui acceptent que leur fille sorte avec des garçons. Il dit, sortir avec un garçon, c'est quoi? C'est-à-dire, si on regarde le problème dans l'autre sens, moi, je vois qu'il sort avec ma fille. Elle dit que oui, mais c'est pour le mariage. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, mais pour marier, il faut bien lui connaître la fille. Alors, regardons, inversons le problème. Ce garçon dans sa tête, c'est quoi? Il dit que j'essaie ta fille. Mais essaye. Nawa, s'il plaît à moi, physiquement, si ça va, l'enfant, si le caractère est correct, si telle chose, c'est-à-dire, je l'essaie comme je vais prendre un pantalon et je vais essayer, ou je prends une paire de chaussures, 42, les bons, ah, essaie un peu, changer d'un 42,5. Il fait 42,5, oui, il a la demi-pointure. C'est-à-dire, je rends. C'est-à-dire, ce père, ça c'est ma fille, ça, c'est ma chair, je l'ai élevée depuis qu'elle est petite. Et là, un garçon, il vient, il prend mon fils, il essaye. Quand il sort avec ma fille, j'essaie. Ça me plaît, je prends la marchandise, ça me plaît pas, ben, on casse. C'est-à-dire, me rend notre marchandise, il plaît pas moins. Et Mohamed me rend ma fille, et demain c'est Ismaël, demain c'est Ishaq, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus d'amour propre. Il n'y a plus ce qu'on appelle al-rira. Ça c'est extrêmement grave ça. Les parents qui sont conscients que leur fille sort avec un garçon, ils l'acceptent. On va voir quelles seront les conséquences également. On fait un petit passage en vue, le jour de Qiyamah. Également celui qui demande aux gens et qui a, hein, qu'Allah nous protège également, etc. etc. Voilà. La sorcellerie. Allah musta'an. Ceux qui le font, qui le pratiquent, ceux qui en ont recours, ceux qui vont voir les marabouts, qui vont voir machin pour voir comment, etc., etc., ils font partie également des choses haram, également, en analogie, les textos. Est-ce que ton gars va revenir? Combien de temps va durer votre couple, etc., etc., etc. Que ce soit SMS, envoyé 3600 à tel numéro, il y a deux choses haram dedans. Un, je consulte quelqu'un sur le destin. Que ce soit un marabout ou une femme avec une boule de cristal, ou alors un opérateur, ça reste consulter le sort. Ça reste dans la catégorie de, on appelle ça en arabe, arrafoun, les gens qui prétendent connaître le futur. Avec ça, l'horoscope, bien sûr. Mais ça, c'est ça, tout le monde le sait, ça, que lire l'horoscope, c'est haram. Lire. Les gens disent, non, mais regarde quoi il dit. Il dit, d'accord, mais tout le monde, il regarde. La personne qui lit l'horoscope, c'est bien pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Tout le monde, il n'y a pas une grande différence entre... donc ça. Également font partie, ce que j'estime, c'est également, je ne suis pas d'accord avec ça, ça les gens ils vont voir sur Facebook. Il y a certaines applications avec qui tu vas te marier et quand. Elle a dit oui, Lukman a vu, il va se marier en 2009 avec telle personne et le mariage se fera à tel endroit. Si c'est pour jouer, ça va. Mais je suis d'avis que ça fait, c'est comme si qu'on consulte un petit peu. Donc tout ça, ce sont des choses haram. Parce qu'on entend consulter. Il y a deux péchés concernant les SMS à ce soir. Il y en a un grand match là. Dans le mi-temps, on voit qu'on a besoin ou destin. Avec qui on s'est marié, combien d'enfants. Tout, il vous donne toutes les réponses par SMS. Deux péchés. Un, c'est consulter le sort. Et deuxièmement, c'est le fait de payer pour quelque chose qu'on ne connaît pas le muqabala. Ce n'est pas le prix d'un SMS, c'est le prix d'un SMS plus quelque chose d'autre. Ça, c'est haram. Également, autre chose, une petite parenthèse, hein, quand il y a la question du jour. Hein, là, par exemple, bon, c'est des bêtises, on a déjà dit pas mal. Il y a la question du joueur dans les matchs. Hein, il dit qui a fait telle chose, qui a fait telle chose, etc. etc. Ça, c'est une parenthèse, hein, parce que je suis persuadé qu'il y en a qui jouent à ça. Ils envoient la réponse par SMS. Le truc, c'est quoi le problème? Cela reste un tirage au sort, c'est un jeu de hasard. Si c'était juste j'envoie un SMS comme ça, tolérable. Mais le fait que c'est le coût d'un SMS plus 50 centimes. C'est exactement comme si j'achète un ticket, je coule dans l'urne. C'est pareil, j'ai payé, il y a 2 millions de Français qui ont payé, et il y a un qui sera le gagnant. C'est le même système de la loterie, du jeu de hasard, donc ça aussi, ça fait partie des choses qui sont haram. Bon, il y en a tellement, il y a à peu près 25 ou 30 catégories de péchés, dont Allah donne tawfiq, inchallah, de voir peu à peu et quelles seront les conséquences, afin qu'on prenne conscience du caractère grave de ces péchés et qu'on arrive à en rester éloigné, qu'Allah t'en donne tawfiq, de rester éloigné de tous ces péchés, qu'Allah nous donne la possibilité de comprendre ses paroles, de faire entrer la réalité de la foi dans nos cœurs, de rester éloigné du haram et d'essayer de s'accrocher au hablullah, hein, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également qu'Allah nous donne, hein, la possibilité de submerger dans ces moments de fitna où on entend plein de choses, plein de principes de la religion qui sont en train d'être condamnés. On a commencé par le niqab, on a commencé par le châle, bientôt dans, c'est une question de joie, le parda. Également, là on parle des minarets, et demain ce sera la construction des mosquées. Dans 2 ans ce sera le port de la barbe, dans 5 ans ce sera le pèlerinage. Et Wallahu musta'an, d'année en année, de génération en génération, il y aura de plus en plus de difficultés à pratiquer sa religion. Le musulman qui est sauvé par Allah, c'est celui qui saura rester ferme de son dîn, accroché à sa religion. Qu'Allah nous accepte et nous protège. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.